Passons, si vous le voulez bien, à la 12e et 13e fourberie. J'avais dit 13 à la douzaine. La 12e consiste à entrer et à s'insinuer dans notre souci de progrès. Vous savez que quand on se met à progresser, on trouve qu'on ne progresse jamais assez vite et on désire accélérer le pas. Et plus la vie spirituelle s'améliore, plus elle attise notre souci, notre désir de progrès. Entre les mains du Seigneur, il n'y a pas de problème. Lui sait doser, il sait nous faire franchir les étapes et nous transformer au rythme qui nous convient. C'est pour ça qu'il faut le laisser faire à sa guise et à son rythme. Mais bien des âmes généreuses, coachées par Scapin le Malin, sont souvent induites en tentation de donner un coup de main au Seigneur pour que ça aille un peu plus vite, en cherchant à accélérer le processus sanctificateur concernant eux-mêmes ou concernant les autres. Et là, on se fait prendre. Il y a deux grands inconvénients à ça, c'est que la partie qu'on enlève au Seigneur pour la prendre en main, pour faire sa part, se trouve à être enlevée au Seigneur. Et on se trouve à ce moment-là à marcher sur son propre génie et non plus sur ses grâces. Alors, on y perd au total, parce qu'on risque de brûler les étapes ou de forcer les autres à aller trop vite. On serait toujours mieux de laisser le Seigneur prendre notre sanctification et celle des autres complètement en main. Et je passe à la dernière des fourberies, qui consiste à se faire prendre au piège de la réforme et du dépannage des autres. En effet, il n'y a pas de sentiment plus noble sur terre que de vouloir voler au secours de nos frères et de nos sœurs, surtout si on les sent perdus dans l'erreur ou simplement mal pris. La même chose face aux œuvres, aux institutions, aux causes, voire même à l'Église. On a tous une vocation innée de sauveur et de rénovateur, et on n'aime pas rater les occasions. L'adversaire, lui, le tentateur, le sait. Et il sait fort bien où étendre sa cire à plancher, où semer ses pelures de banane. Et on s'engage dans le dépannage puis la réforme des autres, puis tout à coup, yop, les quatre fers en l'air. Pourquoi? Ben, le problème n'est pas dans le fait qu'on avait une bonne intention, mais dans le fait que au moment où on s'occupe de réformer les autres, de dépanner les autres, c'est toute une psychologie de réformateur, de sauveur, de sauveteur. Et c'est là que notre ego peut se souffler, s'enorgueillir. On se sent quelqu'un, je suis en train d'aider un autre, je suis en train de dépanner quelqu'un, je suis en train de remettre la vie en ordre de quelqu'un. Et c'est très facile que ce sentiment d'être quelqu'un, de se sentir utile, de se sentir presque indispensable, donne accès à judoka. Et surtout, si en plus on est en autorité sur ces gens-là, c'est nos enfants, c'est nos subalternes, alors l'ego de la personne en autorité gonfle encore d'autant plus vite. Et surtout, si les autres résistent, puis n'ont pas l'air à comprendre, alors il y a des occasions multiples d'irritation qui s'enchaînent les unes aux autres. Alors, on tombe dans la tentation, on force la note, on insiste trop, on revient à la charge, on s'entête, on s'obstine, on veut affirmer son autorité, on veut avoir raison ou arraisonner l'autre. Que d'autorité, d'éducateur, de parent, en voulant bien faire, ont tout cassé par leur autoritarisme. Même dans le domaine spirituel. Alors, il faut faire bien attention à cette... Et retenir ceci, ne pas se croire instrument du Seigneur pour réformer et dépanner tout et tous qui sont sur notre route. Il y a trois catégories de gens sur notre route. Ceux que le Seigneur envoie, ceux qui s'envoient eux-mêmes et ceux que le malin envoie. Donc, sur 100 personnes qui sont sur ma route, Il y en a peut-être seulement 27 que le Seigneur m'envoie. Et les autres sont amenés d'eux-mêmes, et le Seigneur ne me les a pas confiés, et d'autres, le malin, me les envoie pour m'accaparer, et je n'ai pas à succomber à ça. Et alors, si je ne fais pas la distinction, je donne aux 100 personnes chacun un centième, alors que je devrais donner à chacun un 27e, aux 27 que le Seigneur m'a confié. Mais nous reviendrons toujours là-dessus dans d'autres enseignements. Et voilà, 13 à la douzaine. Remarquez que j'aurais pu en mettre quelques centaines, quelques milliers. Il me vient à l'esprit, là, une autre de ces stratégies. On dit que l'amour rend aveugle. Ben, puis quand on parle de l'amour aveugle, on pense aux coups de foudre, aux alliances mal foutues, quelqu'un est pris dans une situation un peu curieuse, on dit l'amour l'a rendu aveugle, tout ça. Lui, il a multiplié les occasions d'amour aveugle. L'amour aveugle, par exemple, d'un couple chrétien qui, parce qu'ils ont été mariés à l'Église, sont reliés par le sacrement du mariage, se lie d'un amour qui les étouffe. Ils deviennent pris en otage l'un par l'autre. Ils croient que le mariage chrétien consiste à faire de l'autre un dieu ou un quasi-dieu. Alors ils se divinisent, mais à un moment donné, ils s'épuisent, ils s'usent, ils s'endurent, ils se monotonisent. Et puis, ah, c'est beau, l'amour chrétien, c'est ça, l'amour béni par l'Église. Ils se font prendre. Comme la surprotection, par exemple, le surprotectionnisme des parents vis-à-vis des enfants. Que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit imposé par les enfants ou imposé par les parents ou favorisé par les enfants, cette espèce de surprotectionnisme finit toujours par pénaliser tous les membres d'une famille. On s'aime, puis on parle d'unité familiale, mais la liberté n'est pas là. Ni chez les enfants, ni chez les parents. Et par conséquent, la grâce du Seigneur rencontre là une difficulté à passer. Bon, nous en arrivons à la troisième et dernière partie. Quelques conseils d'amis face à cette situation. Je vais d'abord, avec vous, parcourir les trois moyens qui nous permettent de discerner qu'il est vraiment déjà à l'œuvre en nous ou au milieu de nous. Donc, trois points de repère. Si je veux voir si le malin est en train de jouer dans mes plates-bandes ou non. Le premier point de repère, c'est un changement d'attitude. Est-ce que mon attitude change depuis quelque temps? Est-ce que mon moi prend un peu d'embonpoint? Est-ce que je cherche un peu, je me sens plus suffisant, plus porté à me passer des autres, puis à ne pas vouloir qu'on vienne se mêler de mes affaires? Est-ce que j'ai une moins grande disponibilité envers les autres et envers l'autre avec un grand A? Alors, s'il y a un petit changement d'attitude dans mon poste récepteur-transmetteur de son amour, attention, première sonnette d'alarme. Deuxième manière de voir si Judoka est en train de tricoter quelque chose, est-ce que je sens ma vie un peu plus étouffante qu'à l'habitude? Je vois de moins en moins clair, j'éprouve de moins en moins de paix, ça file pas. Je me sens plus souvent qu'à mon tour grognon, chagrin. Je digère moins bien spirituellement. Ça m'agace depuis quelque temps. Est-ce que je commence à avoir mauvaise haleine spirituelle? Est-ce que ça goûte? Est-ce que ça sent l'ail? Pas l'ail des champs, mais l'ail du méchant. Est-ce qu'il y a une détérioration par conséquent de ma climatisation intérieure? Évidemment, ça peut venir de la lenteur du foie, ça peut venir des manques de sommeil, ça peut devenir de bien des causes. Mais attention, lui aussi, il sait nous donner des brûlements d'estomac, puis nous faire souffrir d'insomnie, puis tout ça. Vous savez, dans les autres domaines, ce qui peut nous permettre de discerner aussi, dans les autres domaines, quand on sent que c'est vraiment l'estomac qui fonctionne mal ou le foie, bien c'est incroyable comme on se secoue vite et puis on va prendre des exercices de grand air, on se couche plus tôt, on commence une diète, on prend un médicament. Mais quand c'est ce qu'appelle malin, on dirait qu'on éprouve une langueur à bouger, puis à prendre les bons remèdes, et puis il y a des remises à plus tard, il y a des délais, qui nous sont d'ailleurs offerts gracieusement avec ses hommages à lui. Troisième point de repère, c'est que notre attitude s'embrouille autour de nous parce qu'on se sent moins heureux en dedans. Eh bien, notre attitude, notre état d'âme engendre des états de fait qui se compliquent de plus en plus. On bouscule plus les gens, on est moins attentif. Bon, ça crée de la désunité. Alors voilà trois points de repère. On a vraiment l'impression depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, que mon affaire, ça ne s'améliore pas, mon affaire, comme on dit. Alors que si notre vie était vraiment sous le contrôle et la mouvance de l'Esprit-Saint, donc en élan de sanctification à l'abri des fourberies du malin, eh bien on sent augmenter avec les semaines, les mois, plus de lumière, plus de paix, plus de joie, plus de sécurité. On sent qu'on s'ouvre à lui, au Seigneur et aux autres, et on a besoin d'eux. Voilà les trois points de repère. Maintenant, comment réagir devant cette situation? Je vais d'abord donner quatre fausses solutions et cinq bonnes solutions. Les quatre fausses solutions qui mènent nulle part. La première, c'est de nier ou d'annuler l'existence de Satan, celle des tentations et du péché. Il y en a qui ont cru dans leur vie qu'en disant « il n'existe pas », il réglait le problème, et ce n'est pas le cas. Spirituellement, faire ça, là, c'est se mettre un sac de plastique sur la tête. Et tôt ou tard, on va suffoquer. Parce que mon inconscient, qu'on le veuille ou non, il est aux prises avec les forces du mal, puis il sait qu'il existe, même si dans mon conscient, je le rejette. Deuxièmement, se fermer les yeux sur ce qu'il fait dans ma vie. C'est encore une mauvaise solution. Mon attitude d'aveugle facilite son action néfaste. Et je serai d'autant plus endommagé que je renonce à surveiller, à me défendre et à même à combattre. Et ça, c'est un très mauvais conseil que donnent bien des psychothérapeute, quand ils disent aux gens fichez-vous donc du péché, de la morale, vivez donc la vie comme vous avez le goût de la vie, puis ça, les gens s'embarquent dans ça, puis après ça, ils nous reviennent avec encore bien plus de troubles, ils ont leur culpabilité morale en plus de leurs difficultés sociales ou psychologiques. C'est André Gide, qu'on ne peut tout de même pas accuser d'être un père de l'Église ou un vieux théologien, qui, parlant du diable, dit « c'est un vrai paradoxe ». Pour servir Dieu, il faut y croire de plus en plus. Tandis qu'avec le diable, c'est le contraire. Moins je crois en lui, plus je renforce sa position. Il est fort heureux quand il réussit à se cacher derrière une explication rationnelle qui fait de lui une hypothèse gratuite. Alors là, il est bien à l'aise. Il est camouflé comme il faut. Troisième fausse solution, c'est que croire que pour vaincre le diable, il faut se lancer dans une étude approfondie de mon moi, de son moi, et de son contrôle personnel pour neutraliser Julio Calafour. Nullement. Le diable et le Satan s'éloignent et peuvent être maîtrisés qu'à coup de grâce, dans les deux sens du mot. On y tire dessus, puis on se laisse envahir de la grâce. Quatrième fausse solution, se mettre à en avoir peur. judoka s'occupe des peureux avec un malin plaisir, pour ne pas dire un plaisir de malin. D'ailleurs, on n'a pas de raison d'avoir peur, parce qu'il ne peut pas agir directement sur notre intelligence, ni directement sur notre volonté. Il ne peut pas nous faire pécher contre notre gré. Il peut, par des impressions, par des influences, par toutes sortes de choses, créer un climat qui va obscurcir notre intelligence, notre volonté, bloquer un peu notre intelligence. Mais il ne peut pas nous faire pécher malgré nous. C'est saint Augustin qui disait, comme un chien enchaîné, Satan peut aboyer, mais il ne peut mordre que celui qui le veut bien. Alors, ça ne donne rien d'avoir peur. Quelles sont les meilleures solutions à avoir face au malin? J'en propose 5 rapidement. La première, nous venons de la vivre. S'arrêter de temps à autre, comme nous venons de le faire, à réfléchir et à mieux comprendre le plan de sa mission et ses stratégies les plus courantes. Deuxième moyen, demander très fort au Seigneur de nous donner la vertu infuse, si possible, d'humilité. Et vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est l'antidote, c'est l'anticorps parfait contre l'orgueil. Plus l'humilité croît, plus l'orgueil décroît. Et plus l'orgueil décroît, moins le malin a de prise sur soi. On sait que l'humilité, c'est le fondement de la vie spirituelle et qui consiste à reconnaître sa petitesse devant Dieu. Alors que l'orgueil, c'est un défaut qui n'est pas toujours évident et facile à repérer. L'orgueil a un talent de se mettre en léthargie ou en hibernation et de se faire oublier. Mais le malin vient, lui, puis il réussit à le faire surgir à nouveau. Troisièmement, entretenir, s'interroger, s'évaluer sur le plan et l'action de l'amour de Dieu et du prochain. Plus je suis envahi d'amour et d'amour divin, désiré, accueilli, transformé par cet amour que je partage, moins la haine que propage Satan a de chances de m'atteindre. Et plus on est amoureux de Dieu, plus on glisse entre les mains du malin. L'amour de Dieu nous enduit d'un revêtement dont lui ignore tout à fait le secret, puis il n'est pas capable de nous prendre quand on est vraiment amoureux aller-retour avec le Seigneur. Quatrième moyen, apprendre à discerner et se laisser discerner par des amis, par des conseillers, par sa communauté. Si les membres de notre communauté discernent qu'on est facilement sur la manigance du malin, eh bien, les croire. Ils n'ont pas de raison de nous induire en erreur. Et essayer de prendre leurs conseils, leurs avis, ne pas les rejeter a priori. Et la même chose, s'ils nous disent qu'on ne l'est pas, bien les croire qu'on ne l'est pas. Et cesser de croire qu'on l'est. Cinquième et dernier moyen, évidemment, c'est veiller et prier avec Jésus, avec le chef de l'armée céleste, Saint Michel Archange, mon grand ami, soit dit en passant, à qui Dieu a confié le soin d'écraser le dragon. Alors, si le Seigneur lui a confié cette mission, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, les résultats sont déjà publiés, il gagne le combat, ça veut dire qu'il a reçu toute la force, qu'il connaît tous les bons trucs pour réussir. Comme on dit dans le langage populaire, il y a tout le kit qu'il faut pour remporter cette victoire. C'est donc avec Jésus. Vous savez comme moi comment Jésus a affronté personnellement Satan. Donc il n'a pas lu ça dans un grand livre. Il lui a fait face. Et il a remporté sur lui une victoire décisive par KO, par knock-out. On sait également que Jésus a affronté les mauvais esprits, les démons. Il les a chassés avec succès. Il a réussi à les vaincre dans leur domaine. Et alors nous, comme disciples de Jésus, nous devons continuer la lutte au nom de Jésus. Et c'est là que vient tout le sens du ministère de libération et d'exorcisme au besoin, si Satan est venu à bout de posséder quelqu'un. Mais encore une fois, je le dis, on ne peut être possédé par lui que si on accepte cette possession. Il en sera fini à jamais de Satan au terme de l'histoire du salut, par la victoire définitive de Jésus et de l'Église, son épouse. Et comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 10, « Alors le diable sera jeté dans le lac de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. » Vous vous rappelez comment Saint Paul nous parle du combat de la foi. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux, dans les airs, c'est-à-dire l'air qui s'interpose entre Dieu et nous. Prenez le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du mal. Et finalement, une réflexion globale. Quelle est l'attitude générale à avoir face au malin? Je fais une distinction que j'ai appris d'expérience moi-même. Il faut être assez disponible pour voir ce qu'il fait, mais par ailleurs, il faut ignorer le personnage complètement, s'en balancer. Il réussit parfois à se faire remarquer et à se mériter des honneurs et des attentions. Alors moi, je me fous de l'être qu'il est, je m'en balance, je n'y pense pas, m'intéresse pas, je n'en parle pas. J'ai fait une exception pour ces cassettes ici, et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, parce que je sentais que c'était peut-être utile à l'heure actuelle, dans le renouveau de l'Église, de voir un peu ses stratégies. Mais vous ne m'en verrez pas et vous ne m'entendrez pas lui faire l'honneur de commentaires ou d'annonces ou quoi que ce soit inutilement. Il faut ignorer le personnage, mais voir ce qu'il fait. Ne pas le laisser s'imposer à notre conscience, à notre vue. S'enligner sur Jésus en compagnie de Marie et de Saint-Michel et en avant-marche. Uni au Christ par la foi et la prière, le chrétien ou les chrétiens que nous sommes sûrs et certains de triompher. Celui-là seul sera vaincu qui aura consenti à l'être. Saint Jacques nous dit dans son épître, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et c'est vrai. Le diable, à un moment donné, se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire dans nos plates-bandes, qu'il est malvenu, qu'on le connaît, qu'on le dénonce, et puis le Seigneur vient après ça avec toutes sortes de grâces protéger l'entrée du jardin et puis garde quelqu'un. Saint Paul nous dit, ne donnez pas prise au diable. Saint Pierre nous dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer, mais résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à tous vos frères dans le monde. En d'autres termes, on y goûte tous. Donc, resserrons nos liens. Et il ajoute, ce même Saint-Pierre, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Donc, il inclut les tentations, il inclut les fourberies du malin, car Dieu prend soin de vous. Alors voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous sur ce thème. Et si vous voulez, nous allons terminer par une prière à Jésus. Le fourbe réussit à nous avoir parce que nos sens spirituels parfois sont brouillés, on ne voit pas son jeu, on n'entend pas ses suggestions, on est paralysé dans ses mouvements, on est peut-être à moitié mort dans notre vie spirituelle. Alors nous allons prier Jésus, lui qui a été celui qui a guéri les malades, les aveugles, les muets, les boiteux, les sourds, les paralytiques, eh bien, de venir faire ces mêmes guérisons dans notre âme afin de pouvoir faire face à ce malin. Recueillons-nous en terminant. Jésus, divin sauveur, toi, notre ami, exauce-nous. Par toi, l'aveugle a vu la lumière. Dévoile à nos yeux ta présence. Tu as délié la langue du muet. Apprends-nous à célébrer ta louange. Seigneur Jésus, tu as ouvert les oreilles du sourd. Garde-nous attentifs à ta parole. Tu as guéri le paralytique. Donne-nous de courir dans la voie de ton amour. Tu as fait sortir Lazare de son tombeau. Ramène à la vie tous ceux que le péché retient dans la mort. Prions ensemble. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner.